Alors, je commence par souhaiter une bonne année aux étudiants que je n'ai pas encore rencontrés cette année, puisque la dernière fois que j'ai été ici, c'était pour le cours de dogmatique, donc ça concerne peut-être pas les mêmes personnes. Je rappelle que c'est bien si vous émargez en envoyant un petit message sur mon téléphone 06 60 20 41 64. C'est intéressant pour nous de savoir qui est là, qui est connecté. Je sais que les autres personnes, celles qui ne sont pas connectées, en fait, écoutent ces cours très courageusement en faisant leur repassage ou d'autres activités ménagères tout à fait louables. Donc, pour ceux qui ne sont pas en train de repasser ou qui repassent tout en regardant, donc je présente ce soir la suite de ce cours de liturgie. En fait, forcément, comme les cours ne sont pas très nombreux, je suis obligé de découper suivant des thèmes. Et les fois précédentes, j'ai beaucoup insisté sur l'importance donnée au rite, parce que ça me paraît important. Je crois que j'ai réussi à dire quand même pas mal de choses à ce sujet-là, sur l'importance du rite, dans l'histoire générale des religions, mais également dans le christianisme. Je crois que ce que j'ai mis en lumière, quand même, c'est le caractère objectif du rite, d'une part, donc, qui est assez important, c'est-à-dire qu'il y a dans la réalité religieuse, il y a une réalité qui est objective, si on peut dire, qui ne dépend pas du caprice humain. Et d'autre part, je pense que ce que j'ai dit aussi, c'est que le rite n'est pas une invention humaine, mais est la réitération, d'une action divine. Alors ces éléments-là, je vais les reprendre un petit peu, mais en fait, j'introduis un thème particulièrement important, enfin, de mon point de vue. Et c'est l'idée suivante, c'est que dans le corpus liturgique chrétien, parce qu'il est caractéristique du rite chrétien, si vous voulez, du monde religieux chrétien ou du monde rituel chrétien, et donc des sacrements, puisque c'est de cela que je parle ce soir, des sacrements en général, c'est le fait que Dieu est présent dans les actions qui sont accomplies. Ça, c'est absolument fondamental, et je pense que c'est ça qui fait vraiment la spécificité de la réalité religieuse chrétienne, qui fait qu'on ne peut pas comparer, le christianisme à d'autres religions. Mais c'est tout à fait, au fond, le christianisme, l'expérience liturgique chrétienne, c'est au fond d'un tout autre ordre que les différentes formes que prend le phénomène religieux dans l'histoire des religions. Il y a quand même à un moment, si vous voulez, quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est la présence de Dieu dans l'activité religieuse ou liturgique ou rituelle, et sa présence à la fois comme auteur, comme acteur aussi, et comme contenu, il est celui qui est présent dans le rite, dans l'action liturgique, tout en étant celui qui agit et qui est donc le chef de cette action. Donc c'est ça que je vais essayer de montrer. J'utilise en bibliographie, c'est toujours un petit peu les mêmes textes, c'est-à-dire principalement les textes du père Dumitru Stăniloae, parce que qui sont malheureusement en langue roumaine. Moi, j'utilise des traductions françaises qui ne sont pas encore éditées. Mais donc les thèmes que j'aborde ce soir, c'est-à-dire la présence en fait du Christ dans les sacrements de l'Église, ça se trouve particulièrement dans Spiritualité et Communion dans la liturgie orthodoxe, page 139 et suivante, c'est en roumain, dans l'autre livre de Père Dumitru Stăniloae, dans la Théologie dogmatique orthodoxe, volume 2, page 72, également en roumain. Mais donc je peux quand même proposer une bibliographie en langue française pour ceux qui ont le temps d'approfondir un petit peu. D'une part, il y a ce trait, je sais pas, je le montre, je sais pas si l'image est claire, mais le livre d'un certain Daniel Coffini s'appelle Nicolas Cabasillas, La vie en Christ, et l'intérêt de ce livre, c'est que, en fait, si vous voulez, c'est l'édition C'est la même traduction que celle que vous pouvez trouver dans les sources chrétiennes, mais là, on n'a que le texte en français, et c'est présenté, ben, il y a des découpages avec des têtes de chapitres qui, de mon point de vue, facilitent beaucoup la lecture. Donc c'est la traduction est la même, mais la présentation est beaucoup plus facile à utiliser, et dans les textes de Nicolas Cabasila, surtout dans La vie en Christ, où il parle des sacrements généraux, ce thème-là de la présence du Christ est certainement le thème principal, et je pense que Père Domitru Stanilu a beaucoup utilisé les textes de Nicolas Cabasila, le Saint Nicolas Cabasila. Un autre volume qui est très très important pour ce sujet, c'est un des volumes du Père Alexandre Schmemann, celui qui s'appelle « Pour la vie du monde ». Moi je l'ai dans une ancienne édition, mais il y a une édition plus récente, mais le texte est le même, et c'est évidemment très 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 important. Et alors lui, il est assez, je reviendrai tout à l'heure, il est assez catégorique. Lui, il considère que le christianisme n'est pas une religion, que c'est la fin de toutes les religions, que c'est tout à fait autre chose. Je pense qu'il a raison, mais justement, j'expliquerai un petit peu pourquoi. Parce que comme j'ai beaucoup insisté, moi, sur l'importance du religieux et du rituel, donc il faut donner un petit peu le point de vue opposé. Et puis, donc, aussi, dans le domaine de la bibliographie, je renvoie à des textes qui sont, un texte qui est un manuel, c'est le vocabulaire de théologie biblique, publié au CERF en 1970, et à partir de la page 1163, il y a plusieurs paragraphes très intéressants sur la notion de sacrifice. Et comme je vais en parler, donc je renvoie à ça, c'est la notion de sacrifice en général dans le monde biblique, et en particulier, plus particulièrement, dans le monde spécifiquement chrétien. Et puis je renvoie également alors à deux textes bibliques, le texte de l'Épître aux Hébreux de l'apôtre Paul, attribué à l'apôtre Paul, vous savez, les chapitres 8 à 10, qui traitent principalement, en fait, du sacrifice liturgique, on peut dire, du Christ lui-même, et également je renvoie à un passage de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 6, que vous pourrez lire, qui est très important aussi pour la conception chrétienne de la liturgie. Bon, donc, le premier point que je veux dire, c'est que, en fait, cette présence du Christ, elle est dans toutes les actions liturgiques, pas seulement dans la liturgie eucharistique, que nous verrons de plus près en son temps, mais dans tous les sacrements. C'est pour ça que là, j'ai annoncé les sacrements, leur forme rituelle, la place du Christ et de l'Esprit. En fait, Père Domitru Stanilu, comme tous les théologiens orthodoxes d'ailleurs, insiste sur le fait que la présence du Christ est universelle dans tous les actes que l'Église accomplit en son nom, ou, pour dire autrement, dans tous les actes que le Christ lui-même accomplit dans l'Église, par l'Église, pour l'Église et par le ministère de l'Église. Au fond, là, on arrive très très vite au mystère de l'Église. On ne peut pas parler de la liturgie, on ne peut pas parler des sacrements, on ne peut pas parler des rites chrétiens sans parler du mystère de l'Église lui-même. Tout le monde sait cela, mais donc je le rappelle parce que c'est un cours. Les cours sont faits justement pour rappeler ce qu'on sait, réévaluer un peu les connaissances qu'on peut avoir déjà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? Vous savez qu'en français, nous disons le mot sacrement qui vient du latin, et que ça traduit un mot grec qui est en grec le terme de mysterion, donc mystère. On parle des saints mystères en grec. Et c'est un mot qui est pas... J'y reviendrai beaucoup là-dessus, parce que dans l'idée de mystère, il y a l'idée de connaissance. Je n'en parle pas ce soir, je m'oblige à ne pas en parler, parce que c'est un sujet qui m'est cher, mais je consacrerai une séance spéciale à cela. Dans le terme de sacrement qui nous vient de la langue latine, il n'y a pas cette idée de connaissance. Donc le terme sacrement n'est pas absolument équivalent du terme mystère. Mais donc c'est le terme qu'on emploie, et dans le mot sacrement, il y a évidemment la racine de sacré, sacrifice, etc. Donc un sacrement, c'est une action... C'est une action par laquelle il y a un phénomène de consécration. J'ai parlé de ça les autres fois. On consacre du temps, on consacre de l'espace, on se consacre soi-même par l'attention que l'on porte à l'action religieuse. On consacre une parole, il y a des paroles qui sont consacrées qui ne servent qu'à cela. J'ai expliqué l'autre jour que ce qui est consacré, c'est ce qui ne sert que quelque chose. Par exemple, je vais vous donner un exemple idiot peut-être, mais c'était pour détendre l'atmosphère. Dans la cuisine, il y a une éponge qui est consacrée, comme on dit, à une certaine activité, essuyer l'évier, et cette éponge, elle ne sert qu'à ça. Voilà, bon. Donc ce qui est consacré, c'est ce qui est dévoué à une action particulière. Et donc les sacrements sont des actions qui sont spécifiques et qui ne peuvent pas être, comment dire, remplacées par une autre action. Bon. Alors en plus, les sacrements, si vous voulez, comment dire, expriment l'idée que il s'agit là d'actions qui ne sont pas ordinaires. Je fais attention parce que je ne veux pas introduire trop la distinction sacrée et profane, dont je n'ai pas beaucoup parlé d'ailleurs jusqu'à présent, mais qui en plus, de mon point de vue, ne s'applique pas au christianisme. La distinction sacrée et profane, c'est une distinction qui caractérise le monde religieux en général, si vous voulez. Dans la réalité chrétienne, en fait, l'événement historique de l'incarnation de Dieu fait que on ne peut plus parler de profane. Vous voyez, on peut profaner des choses éventuellement, mais on ne peut pas dire qu'il y ait des lieux d'où Dieu soit absent comme tel. Le Christ passe par l'incarnation, il hypostasie l'ensemble de l'humanité, l'ensemble de la nature humaine et l'ensemble de la création, des cultures. Il est omniprésent. Est omniprésent. Donc il n'y a pas de lieu, même en enfer, d'où Dieu soit absent. Je pense que l'incarnation, c'est la fin de la distinction sacrée et profane. Mais, si vous voulez, il reste quand même cette réalité que certaines actions ne sont pas des actions de tout le monde, ne sont pas des actions comme les autres, ne sont pas des actions ordinaires. Et donc, c'est là, si vous voulez, le registre sacramentel. Je veux dire, par exemple, ça peut être des actions extrêmement simples, comme le signe de croix que nous faisons en montant en voiture. Bon, ça a l'air de rien, mais ce simple geste-là fait que je ne monte pas en voiture comme n'importe qui. Le simple fait que la croix soit apposée sur une action qui par ailleurs est une action de tous les jours, eh bien fait que cette action tout d'un coup change de valeur, change de registre, et donc elle est consacrée dans le sens où elle appartient à Dieu. Ce voyage que je vais faire en métro ou en scooter ou en voiture, parce que j'ai fait le signe de la croix, il n'est pas un voyage comme un autre. Il est un voyage dont le Seigneur est devenu, a été comme reconnu comme le chef et le Seigneur. Donc ça, voilà, c'est le monde sacramentel. Mais bien entendu, de manière plus précise, les sacrements désignent des actions précises qu'accomplit l'Église. Je ne veux pas déployer ça maintenant, que tout le monde sait, puisque ça ne sert à rien. Enfin bon, globalement, tout le monde sait qu'il s'agit du baptême, il s'agit de la chrismation, il s'agit de l'Eucharistie, il s'agit du mariage, il s'agit de l'ordination, il s'agit de l'onction des malades, et particulièrement de la communion eucharistique. Mais au sens plus large, les sacrements, si vous voulez, ça désigne l'ensemble des actions qui sont accomplies dans la foi et au nom du Christ. Je parlais du fait de faire le signe de la croix, mais ça a une dimension sacramentelle. Bénir le repas, bénir les voitures, bénir les champs, les animaux, ça appartient quand même au registre sacramentel au sens large. Et c'est vrai que dans l'Église orthodoxe, nous, malgré les influences que nous subissons, nous pensons qu'il y a quand même une sacramentalité large dans l'activité de l'Église. Alors, il y a une distinction tout de même qui subsiste, et qui est quand même clair, c'est que je pense que nous appelons sacrement au sens fort des actions de l'Église qui sont fondées sur un passage précis de l'Évangile. Bon, alors ça, j'y reviendrai un petit peu, mais j'en parle quand même maintenant, parce qu'on est un peu dans le domaine de la définition. Un sacrement, c'est un acte religieux, rituel, accompli dans la foi, avec la parole, etc., dans l'Église, et qui est accompli avec la lecture de l'Évangile correspondant. Je prends l'exemple de l'Eucharistie, évidemment, c'est clair, mais c'est l'exemple, par exemple, du mariage. Pourquoi est-ce que nous considérons l'office du couronnement comme un sacrement? Et c'est parce que nous avons un évangile correspondant, qui est l'évangile de la présence du Christ à Cana de Galilée. Donc ceci donne une base scripturaire, si vous voulez, ou une référence scripturaire à une action précise que le Christ a opérée. Ça veut bien dire que un sacrement pour nous, les orthodoxes, un sacrement au sens fort, c'est une action du Christ. Une action du Christ rapportée par l'Évangile, souvent décrite par l'Évangile, et auquel on peut se référer. Maintenant, c'est vrai que la bénédiction des voitures, par exemple, il n'y a pas d'exemple dans l'Évangile qui nous permette de lui donner un fondement sacramentel aussi important qu'à l'onction des malades, par exemple. Donc, alors c'est vrai qu'en Occident, on a distingué sacrement et sacramentaux. On distingue sacrement, bénédiction, hiérurgie. On peut faire évidemment une certaine hiérarchie de valeurs dans ces actions sacramentales. Bon. Alors, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'un sacrement ou un mystère, c'est toujours, de près ou de loin, une action du Christ en synergie avec les membres de son corps. Et donc, c'est lié au mystère de l'Église, dont le Christ est la tête. Et dans le mystère de l'Église, dans lequel le Christ est présent. Alors ça, le père Dométrou insiste beaucoup là-dessus. Je vais essayer de retrouver les textes que j'ai préparés dans plusieurs passages. Enfin, voilà, ça c'est dans Spiritualité et Communion dans la liturgie orthodoxe. C'est page 139 dans l'édition roumaine. Je l'ai traduit. Je vous lis ça, j'espère que c'est pas trop long. Mais c'est pour vous montrer quand même cette conscience que nous avons de la présence du Christ dans la vie sacramentelle. C'est une citation. La conscience de l'Église orthodoxe connaît une présence du Christ dans le culte selon les modalités suivantes. Dans le sacrifice eucharistique, au premier chef, dans les autres sacrements, petit c, dans les hiérurgies ou actions sacrées, dans les autres services ecclésiastiques, même les offices comme les laudes, dans les prières et les bénédictions du prêtre, petit d, dans la parole de la Sainte Écriture lue par le prêtre dans l'Église, lecture de l'Évangile, par exemple, hein, dans la prédication du prêtre, ça va, oui, c'est assez important, dans les prières dites et chantées par les fidèles à l'Église, dans le dialogue entre eux et le prêtre au sein du culte, hein, dans les lectures de la Sainte Écriture faites par les fidèles en dehors du lieu de l'Église, dans leurs prières et les lectures qu'ils font d'autres livres orthodoxes d'enseignement et de piété, petite h, dans les conversations que les fidèles ont au sujet de Dieu, dans un esprit de foi et dans les œuvres bonnes et pures qu'ils accomplissent selon la foi. Donc vous voyez, la sacramentalité, ça va très très loin, ça inclut aussi ce qu'on appelle le sacrement du frère. Vous voyez, quand il dit les œuvres bonnes et pures qu'ils accomplissent selon la foi, par exemple, toutes les manifestations de l'amour du prochain, eh bien ceci a une valeur sacramentelle et ceci est fait avec la présence du Christ. Ça c'est extrêmement important. On a parlé, j'ai participé aujourd'hui à l'émission à la radio, on parlait de la situation actuelle dans le monde occidental et ailleurs, et du problème de la morale. Je crois que la crise de la morale sur la planète, parce que maintenant tout est planétaire, la crise de la morale vient du fait qu'on a déconnecté la morale et l'éthique, on l'a déconnecté de la présence du Christ. Donc on a admis en Europe occidentale en particulier une sorte de morale autonome. Alors ceci n'est pas du tout la pensée orthodoxe. La pensée orthodoxe, c'est qu'une œuvre, si je donne 1 euro à un pauvre à la sortie du métro, c'est moi qui le donne, mais c'est le Christ en moi qui donne. Vous voyez, c'est qu'il n'y a pas d'une action charitable qui serait déconnectée de l'amour que le Christ manifeste ainsi. Lui qui est présent, il est en présent en moi malgré mes péchés, tout ce que vous voulez, il est quand même présent en moi parce que je suis baptisé, parce que je confesse la foi, parce que je connais le Christ, parce que je le prie, etc. Donc il y a le Christ agit par moi, y compris dans des comportements caritatifs, si vous voulez. Bon, et alors justement la conclusion de Père Stanilowé dans ce paragraphe, c'est lui qui parle toujours, il dit de cette façon toute la vie des fidèles est un culte adressé à Dieu ou une liturgie au sens large du mot. Et donc ça, c'est vraiment une vision très vaste de la vie cultuelle. On est au-delà, si vous voulez, du rite tel que je l'avais décrit. C'est la vie elle-même, si vous voulez, qui est liturgique, hein, puisque dans la vie même du chrétien, le Christ agit pour le salut du monde. Et donc Père Dométrou insiste sur le fait que, effectivement, toutes ces modalités de la présence du Christ dont on vient de parler présupposent un peuple croyant qui, avec les prêtres et les hiérarques, c'est-à-dire les évêques, fait partie constitutive de l'Église. Voilà, quand il n'y a pas de, n'y a pas de présence du Christ qui ne soit pas liée au fait que il est la tête d'un peuple, hein, qu'on appelle l'Église, et que ce peuple est composé de membres qui sont donc des membres à part entière, hein. Il n'y a pas pour nous de christianisme à plusieurs niveaux ou de différents niveaux de chrétiens. Oui, il y a une unité profonde du corps ecclésial, parce que ce corps ecclésial, c'est le corps de quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, qui est le Fils et Verbe de Dieu. Bon, alors ce qui est important, c'est que cette présence du Christ, elle est liée au fait que, dit Père Sagnolet, le Christ vient. Il dit, dans l'Église, le Christ vient et il déploie celle-ci, c'est l'Église, dans toutes les formes par lesquelles elle prie, elle enseigne et accomplit sa volonté. Donc le Christ vient. Alors ceci est une mention très importante qu'il reprend d'ailleurs ailleurs dans la dogmatique. Dans la dogmatique, il dit, alors le corps personnel du Christ, plein de l'Esprit Saint, vient continuellement dans l'Église. Ou ailleurs, il dit, il vient du ciel. Donc le Christ est présent dans l'Église, en fait, de deux façons. D'une part parce qu'il vient continuellement, et d'autre part parce qu'il est présent objectivement, parce que l'Église est son corps. Donc l'Église n'est pas un corps sans tête, n'est pas un corps anonyme, c'est le corps de quelqu'un qui est le Christ. Mais tout en étant présent, il vient continuellement. Et ceci est la dimension eschatologique de la présence du Christ. Vous savez que dans le symbole de la foi, si nous traduisions bien, nous traduirions « je crois dans le Christ », etc. Et de nouveau, il vient en gloire juger les vivants et les morts. Donc c'est venu dans le symbole de la foi, c'est au présent en grec. Ce présent, c'est pas du tout « il va revenir », etc. C'est que le symbole de foi orthodoxe ne reporte pas un avenir historique, aussi intéressant que ce soit par ailleurs, si vous voulez, cette venue, mais il la considère comme une venue actuelle. Et effectivement, ceci est lié à l'activité du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est celui qui fait venir constamment le Christ dans l'Église. C'est par le Saint-Esprit que le Christ vient, mais c'est par le Christ, par le Saint-Esprit également, que le Christ est présent. Donc là, si vous voulez, ce qu'on appelle présence du Christ, c'est à la fois la présence et sa venue continuelle. Sa venue continuelle. Et ceci a été développé aussi par Nicolas Cabasillas dans les textes que j'ai préparés. Je vous lirai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps. Donc, les sacrements, si vous voulez, ce ne sont pas des actions religieuse, si je peux dire, autonome. Ça ne peut pas être des gestes faits en eux-mêmes, ça ne peut pas être de la magie, ça ne peut pas être des rites opérant par eux-mêmes d'une manière automatique, en quelque sorte, efficace par eux-mêmes. De notre point de vue, ça ne voudrait pas dire grand-chose. S'il y a une efficacité des sacrements, je ne sais pas si on emploie tellement le mot, enfin, éventuellement, c'est parce que le Christ agit par ses gestes et par ses signes. Alors justement, le Père Sagnolet insiste beaucoup sur ces doubles modes de présence. Il dit, d'une part, à propos du Christ, le Christ est dans l'Église, dès le temps des apôtres, par la participation commune et par la descente de l'Esprit Saint. D'une part, il vient du ciel, et d'autre part, il est dans l'Église. Parce que j'ai dit, le corps personnel du Christ, plein de l'Esprit Saint, vient continuellement dans l'Église et dans chacun des membres, comme un flot toujours nouveau d'amour, sur la base de l'acte volontaire de communier à lui qui est le leur. Alors, donc, en fait, c'est assez important, c'est-à-dire cette venue du Christ dans l'Église, dans l'action sacramentelle, par exemple, et cette présence du Christ, elle n'est pas indépendante de la volonté exprimée par les croyants. C'est parce qu'il y a un acte de foi des fidèles que le Christ vient et se rend présent. Donc il y a une présence objective, le Christ dit par exemple « je suis toujours avec vous jusqu'à la fin des temps », vous connaissez cette parole-là, mais en plus, si vous voulez, dans chaque action sacramentelle, nous invoquons l'Esprit-Saint, particulièrement par la fameuse prière « Roi céleste consolateur », ou bien nous invoquons l'Esprit-Saint dans les litanies, avec la répétition du Kyrie Eleison, ce sont des formes d'épiclèse également, ce sont des petites, au fond, toute la toute la célébration orthodoxe, dans le moindre des sacrements, a un caractère épiclétique. Toujours avant de demander quelque chose au Christ, c'est-à-dire avant de lui demander de se rendre présent par une action, je répète ce que j'ai dit, avant de lui demander de se rendre présent par une action, qu'est-ce que l'on fait? Le diacre, le prêtre dit, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Et quand on prie le Seigneur, tout le monde dit, Kyrie eleison. Et cette, donc ce Kyrie eleison, c'est une invocation du Saint-Esprit préalable, et par laquelle on peut demander au Christ d'agir. On considérer que le Christ s'est rendu présent. Mais c'est pour tout, même pour, je ne sais pas dans quel exemple on pourrait trouver, mais on doit penser à dire toujours ça. On ne doit pas omettre de dire prions le Seigneur. Je pensais que ce serait trop long, qu'il faut alléger les offices, je ne sais pas quoi. Non, cette invocation du Saint-Esprit préalable, elle est pas nécessaire, si vous voulez, parce qu'on n'est pas dans un monde de nécessité, mais elle est indispensable. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas nous en dispenser, parce que autrement nous passerions à côté du mystère réel de la vie sacramentelle. La vie sacramentelle est une vie dans laquelle le Christ se rend présent par l'Esprit Saint à la demande de ceux qui croient en lui. Mais donc, mais ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas présent en général, si vous voulez. Mais il y a deux façons d'être, en quelque sorte. Le Christ est présent toujours parce que l'Église est son corps, et d'autre part, il se rend présent pour une action précise, appelée justement sacrement. Je regarde dans le texte que j'avais ici, c'est quand même intéressant. Et le Père Saint-Élie parle beaucoup du fait que nos sacrements sont essentiellement constitués de deux éléments, l'élément parole et l'élément prière. Il dit ceci: si nous considérons avec attention les moyens par lesquels le Christ nous devient présent, c'est-à-dire les différents moyens, qu'est-ce que c'est que ces moyens de la présence? Ce sont justement les sacrements. Les différents moyens par lesquels le Christ nous devient présent selon les diverses modalités de sa présence, c'est-à-dire les différentes formes sacramentales, nous voyons que parmi eux se distinguent tout particulièrement la parole et la prière. Donc ça c'est intéressant. Quand on parle de structure des sacrements, on a envie, même moi si je ne fais pas attention, on a envie de penser tout de suite à leur forme, justement à leur forme rituelle, à l'importance des gestes, à l'importance de l'orientation dans l'espace, l'importance des formes en quelque sorte. Et Père Saint-Louis dit, dans ce qui est le plus important, c'est parole et prière. Ça c'est numéro un. Et après ça, effectivement, il y a d'autres éléments. Vous voyez, il dit, par celle-ci, c'est la parole et la prière, c'est autant le Christ qui agit à l'égard des fidèles que ceux-ci même en vue de fortifier sa présence en eux et entre eux. Hein, donc c'est la parole et la prière qui actualisent cette présence. Cette parole, ce n'est pas une parole humaine, c'est la parole de Dieu. Et la prière, c'est la prière, effectivement, là pour le coup, la prière humaine qui sollicite cette présence, qui l'actualise, qui la demande ou qui l'atteste. Donc c'est assez important. Ça veut dire pour nous, si vous voulez, il n'y a pas une localisation de la présence divine simplement dans ce qui est, par exemple, les saintes espèces qui sont sur l'autel, encore que ce soit le cas, pourquoi pas. Mais en fait, c'est une présence universel, général. Le Christ est omniprésent dans son monde en général, plus particulièrement dans son Église, dans ses membres et dans les actions sacramentelles qui sont représentées. Et par exemple, il est extrêmement présent dans les saintes icônes. La prière de... On ne peut pas lire tout ça, c'est très long, mais vous avez ça dans les livres, les œcologes. La prière de consécration des saintes icônes atteste cela, atteste que le Christ est présent dans les icônes qui sont réalisées en son honneur. Mais la prière de l'Église, la prière de consécration des icônes, si vous voulez, elle invite cette présence, elle appelle cette présence et elle atteste cette présence. Je crois qu'il y a les deux aspects, si vous voulez. Il y a l'aspect de supplication, c'est-à-dire que vous dites au Christ, ben, rends-toi présent par le Saint-Esprit et rends-toi présent dans cette icône pour la consacrer, par exemple. Mais ça c'est une chose, mais en même temps on doit l'attester. C'est le rôle des prêtres, pas seulement du prêtre, le prêtre et la communauté des fidèles certifient que le Christ est présent. Et c'est pour ça qu'après la consécration des icônes, tous les fidèles viennent vénérer l'icône. C'est indispensable. De même que, après la consécration de l'eau, on vient de le faire au moment de la théophanie, tous les fidèles passent boire de cette eau, être bénis par cette eau, embrasser l'icône, embrasser la croix, embrasser l'évangile. Ils font cela pour plusieurs raisons. Bien sûr, pour bénéficier, pour se nourrir de cette présence que le Christ réalise dans cette matière consacrée, bien sûr. Ils viennent s'abreuver, pas seulement de l'eau, mais du Christ lui-même. Ils viennent se remplir de cette présence, ils viennent goûter cette présence, ils viennent communier à cette présence, mais ils viennent également l'attester. Ils viennent également l'attester. C'est pour ça que ça doit être fait de manière communautaire. On peut goûter cette présence, on peut la goûter chez soi. On peut rapporter de l'eau à la maison et boire son eau de la théophanie tranquillement, tout seul, sans personne. Mais la présence de la communauté et le rite communautaire attestent, c'est-à-dire certifient, confirment cette présence. C'est assez important. La dimension, de témoignage dans l'exercice des sacrements est une dimension très importante. C'est pour ça que les sacrements sont célébrés à voix haute et intelligible, ou plutôt ils doivent l'être le plus possible. Disons, quand on demande aux prêtres et aux chantres et aux fidèles eux-mêmes de prononcer les paroles qu'ils ont à prononcer de façon intelligible, puisque l'intelligibilité permet justement l'attestation. La parole doit être formulée de façon claire. Façon claire, quand on le prêtre, par exemple, le prêtre ou l'évêque, ceux qui président les sacrements, ne doivent pas murmurer. Donc, s'ils murmurent, ça veut dire que ce qu'ils disent et ce qu'ils font a un caractère privé, et en tout cas, à ce moment-là, ce qui est dit ou fait ne bénéficie pas du caractère de témoignage objectif, attesté et attestable par les personnes qui en sont le témoin. Donc, il faut que les sacrements, par exemple, l'immersion du baptisé, ça doit être visible de tout le monde. On doit entendre le serviteur de Dieu un tel est baptisé au nom du Père, Amen, du Fils, du Saint-Esprit, etc. Ça doit être entendu. Il faut qu'il puisse y avoir l'Amen. Si on n'entend pas, on ne va pas dire Amen. Or, l'Amen est justement la parole par excellence qui atteste que tous les sacrements, toutes les actions sacramentelles, même les plus simples, les plus, minuscules, comme la bénédiction d'un champ, la bénédiction des animaux, etc., se termine par un Amen, c'est-à-dire une attestation, une confirmation que le Christ a été présent, a agi, et qu'il a fait ceci. Oui. Donc la présence du Christ dans l'Église, elle est crue, nous la croyons, elle dépend de la foi, si vous voulez, bien sûr, nous n'en doutons pas, nous la confessons, nous la reconnaissons par nos gestes, en particulier les métanies, les prosternations, les inclinaisons que nous faisons du buste vers cette présence, justement. C'est très intéressant de voir la célébration liturgique de l'Église orthodoxe, une célébration dans laquelle il y a un mouvement. Il devrait y avoir un mouvement, parce que dans beaucoup d'endroits, malheureusement, le gestuel s'est affaibli, mais ce mouvement est important, parce que dans le mouvement d'inclinaison du buste, par exemple, sans parler de métanie complète, ou même de petite métanie, cette inclinaison du buste, elle est un hommage rendu à la présence du Christ et des saints. Nous nous inclinons devant les icônes, nous inclinons quand nous disons gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, parce que nous ne disons pas ça en l'air. Nous disons gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, parce que ici, le Christ est présent par le Saint-Esprit, et il est présent dans toute son unité au Père. Nous avons une présence trinitaire, en fait, dans l'Église. Le Christ est présent, mais il est présent en communion avec l'Esprit et en communion avec le Père. Donc quand nous disons « voir au Père et au Fils et au Saint-Esprit », ce que nous disons continuellement dans tous les sacrements de l'Église, je pense, nous nous inclinons devant une présence réelle. Ça, c'est extrêmement important. Nous ne prions pas un Dieu absent ou un Dieu séparé de l'Église. Nous prions un Dieu qui est présent et dont la présence est signifiée par tous les signes de sa présence, qui sont les formes, les gestes, les parfums, les couleurs, etc., tous ces signes matériels qui signifient justement sa présence. Alors, à propos, donc mais lui, personne ne lui, mais l'accent beaucoup sur parole et prière, je me suis fait comprendre. Il dit par celle-ci, par la parole et la prière, c'est autant le Christ qui agit à l'égard des fidèles, d'accord, que ceux-ci qui agissent eux-mêmes, hein, en vue de fortifier sa présence en eux et entre eux. Hein, donc la prière et la parole, c'est pas seulement un moyen que le Christ a, si vous voulez, de nous rejoindre, mais c'est le moyen que nous avons, nous, de nous tourner vers lui, de nous ouvrir à lui et de fortifier entre nous la conviction que nous avons de sa présence miséricordieuse. Bon, maintenant, dans certains sacrements, continue Père Dumitru, avec la prière, on l'utilise également comme moyen, disons, matériel, hein, ce qu'on appelle des moyens matériels, c'est lui qui le dit, soit un geste, soit une matière unie à un geste, hein, une matière, ben oui, l'eau, c'est une matière, hein. Et alors, il dit, je serais intéressant, il dit, le geste ou la matière unie au geste, dans le fond, ce sont des paroles incorporées. Alors ça, c'est une très très belle expression de Père Dumitru, sur laquelle je veux insister, parce que ça définit très bien la réalité sacramentelle. Parole incorporée. Donc il y a la parole, il y a la prière, mais la matière qu'on utilise dans le sacrement et le geste, et les gestes que l'on fait, c'est une incorporation de la parole. C'est la parole qui prend chair. C'est-à-dire qu'en fait, ici, ça veut dire que le mystère de l'incarnation, si vous voulez, est un mystère tel qui se réalise continuellement, il se manifeste continuellement. On peut dire que les sacrements sont des épiphanies continuelles de l'incarnation. Nous ne cessons pas, ça c'est passionnant de penser à ça, nous ne cessons pas dans le moindre des sacrements, et à plus forte raison, l'Eucharistie évidemment, mais je ne veux même pas parler de l'Eucharistie, je veux m'exprimer de manière générale, dans la moindre des actions sacramentelles, il se manifeste que le Christ est incarné et qu'il est demeuré incarné. Et ça, personnellement, j'insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que le Christ est à la fois à la droite du Père, à partir de l'ascension, de l'exaltation, il est glorifié à la droite du Père, et donc à la fois est présent par le Saint-Esprit dans l'Église et venant dans l'Église aussi par le Saint-Esprit. Donc tous les gestes que nous faisons, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Vous allez me dire que j'enfonce des portes ouvertes peut-être, mais je ne suis pas complètement naïf. Je sais très bien comment ça se passe dans l'Église. Je sais très bien que nous pouvons célébrer des rites vides, soit en pensant à autre chose, soit en les célébrant de manière formelle. Et en tout cas, en ne cultivant pas ce sentiment de la présence, cette conscience de la présence de Dieu, je pense que c'est archi fréquent. Donc si je me donne la peine, justement, de revenir sur l'ontologie même, au fond, des sacrements, c'est bien parce que je pense qu'il y a un besoin de rappeler ces choses-là du point de vue pastoral, du point de vue liturgique dans nos paroisses. Si nous voulons que la vie liturgique dans les paroisses soit vraiment une vie lumineuse, éclatante, convaincante, crédible, et je dirais missionnaire, eh bien, il nous appartient de cultiver chez nous la conscience de la présence du Christ dans son Église et dans tous ces gestes que nous faisons. Donc, essayez de retenir cette idée-là, qui est très très belle, c'est-à-dire que le moindre geste, la moindre matière consacrée, c'est une parole incorporée. Le Christ s'incorpore, ou plutôt manifeste son incorporation, parce que là, comment dire, il n'y a pas plusieurs incarnations du Verbe, il n'y en a qu'une, une seule définitive. Mais cette incarnation du Verbe, si vous voulez, elle peut se manifester continuellement, dans ce que je viens de dire à l'instant, par des épiphanies successives. Donc une action sacramentelle, c'est une épiphanie, et les actions sacramentelles sont des épiphanies successives, quelles qu'elles soient. Et donc, celui qui va aller bénir un champ, bénir les animaux, bénir les moissons, il va signifier, il va manifester, il va attester la présence cosmique du Christ incarné, le fait que le cosmos lui-même est hypostasié par le Verbe. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'intéresse de parler et de liturgie et de dogmatique, parce que c'est la même chose. Alors, l'essence de la liturgie est dogmatique. S'il n'y a pas le dogme chrétien derrière, nos rites liturgiques n'ont aucune signification. Ce sont, comme m'a dit un ami une fois, c'est quand même intéressant de savoir que ça peut être, c'est passé comme ça. Un ami roumain, baptisé orthodoxe, etc., il est venu à l'église, ils ont parlé un petit peu, et je lui dis, mais on ne voit pas bien souvent, il s'est venu un petit peu plus, Vous allez voir, enfin, comme font les prêtres toujours, on essaie d'encourager les fidèles à venir à l'église un peu plus souvent. C'est une décision de lutter contre l'absentéisme liturgique. Et ce garçon, très bonne personne, hein, me dit « Oh, vous savez, moi j'aime bien l'église, c'est surtout pour retrouver mes amis roumains. » D'accord, ça se comprend très bien. Et je lui dis « Oui, mais ça, bien sûr, ça je comprends très bien, mais quand même, la liturgie, les... Oh, vous savez, pour moi, ça, c'est des rites complètement vides. » Il m'a dit ça quand même. C'est que pour lui, venir à l'église, c'était retrouver les copains roumains, mais ce qui se fait à l'église, les rites, c'était complètement dénué de signification, aucun sens. Il n'y a rien. Alors ça, oui, c'est, donc ça peut arriver quand même. C'est pour ça qu'il faut quand même cultiver pas seulement le sentiment de la présence, mais la conscience. Je veux dire par là que, justement, notre ami Sylvie en parlait tout à l'heure de Saint-Simon le Nouveau Théologien. Saint-Simon le Nouveau Théologien, au XIe siècle, il a dit que ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est la conscience de la grâce de Dieu, la perception de la grâce de Dieu, l'expérience consciente de la grâce de Dieu. Et ça, c'est très, très, très important. Ça veut dire que notre expérience dans l'Église, ça devrait être, ça peut être, ou c'est peut-être, je pense, quand même pour un grand nombre d'entre nous, à certains moments en tout cas, une conscience de la grâce de Dieu dans les sacrements. Et quand nous perdons cette conscience-là, ça veut dire que nous sommes dans le péché, justement. C'est le péché qui nous fait perdre cette conscience-là, qui fait perdre... Est-ce qu'il nous fait perdre la grâce? Je ne sais pas, mais il nous fait perdre la conscience de la grâce. Et il nous fait perdre la sensation de la grâce. Parce que ce qui est important, si vous voulez, il faut quand même oser dire que l'être humain a la capacité de ressentir palpablement la grâce du Saint-Esprit. Vous allez me dire, mais c'est impossible, parce que comment est-ce qu'on peut ressentir corporellement une réalité qui est totalement incorporelle? Oui, mais ça, c'est lié justement au mystère de l'incarnation. C'est bien parce que le Verbe est totalement incarné qu'il rend disponible pour nous de façon corporelle et de façon sensible ce qu'il transmet et qui est la grâce incréée qui est elle-même totalement incorporelle. C'est justement le mystère que ce qui est totalement incorporel est rendu accessible corporellement à ceux qui croient. C'est ce qu'a dit, a expliqué Saint Jean Damascène très bien dans ses pages sur l'icône. Il dit, le principe de l'icône, c'est exactement ça, c'est-à-dire ce qui est incorporel, je prends la dimension corporelle pour nous rejoindre, ou nous offre la dimension corporelle pour le rejoindre. Donc j'aime beaucoup cette expression « parole incorporée », comme vous avez compris. Et donc, là, c'est ce que dit Père Dumitru, je vais passer un autre chapitre après. Il dit, la parole et la prière sont les moyens qui font venir le Christ, parce qu'ils mettent en liaison la pensée de ceux qui les prononcent ou les entendent avec lui, le Christ, et que ceux-ci, c'est ceux qui les prononcent, se mettent eux-mêmes par cette pensée en liaison avec lui. De la sorte, dans le cœur même de ceux qui prient, le Christ est présent et actif par son Esprit Saint, comme dit l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 8, comme il l'est dans celui de ceux qui annoncent le Christ également. Donc vous voyez, ce qui est important, si vous voulez, là, c'est peut-être, c'est pas très facile à dire, mais que, le Christ dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Bon, ça veut dire qu'objectivement, le Christ est présent dans l'Église, il est avec nous, bon, ça c'est objectif. Bon, à nous de pouvoir adhérer à cela par la foi, de le croire véritablement. Maintenant, il y a, en plus de ça, une venue personnelle, active et perceptible du Christ. Et c'est venu, ce sentiment de la présence, cette façon dont le Christ se rend présent, alors qu'il est présent, il est présent d'une certaine façon, mais il peut se rendre hyper présent, ou souverainement présent, royalement présent, et palpablement présent, ça dépend quand même de nous, de notre prière, de nos paroles, et de notre sollicitation. Et c'est un petit peu comme ce qui se passe dans l'évangile où le Christ dormait à la tête de la barque et les apôtres dormaient aussi un petit peu. Survient une tempête, les apôtres se réveillent et le Christ continue à dormir, mais il est présent et les apôtres l'appellent pour le réveiller, et à ce moment-là il se réveille et il il maîtrise la tempête. Il y a un passage aussi, d'ailleurs, dans un psaume de David, je ne sais plus quel numéro, où il dit « Éveille-toi, Seigneur, pourquoi dors-tu, Seigneur ?» Donc je pense qu'il y a des modes, si vous voulez, de présence de la divinité dans l'Église, dans son propre peuple, qui sont des modes variés. Le Christ peut être présent dans l'Église comme une présence objective, comme un repos. Hein, je pense qu'il y a ici un sort de repos de Dieu dans son propre corps, qui est quelque chose d'admirable, mais il peut être aussi activé, cette présence peut être activée par la prière, par la supplication et par la louange des fidèles. Donc ça c'est important. Alors, donc ça c'est le premier point que je voulais dire dans cette présence du Christ dans les actions liturgiques. J'ai moi-même consacré beaucoup de temps à un exposé sur la présence du Christ dans le sacrement des malades. Si ça intéresse quelqu'un, je pense que ce texte doit être quelque part, il existe en roumain et en français. C'était très 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 important d'avoir fait ça, parce qu'en fait celui qui agit dans le sacrement des malades, ce n'est personne d'autre que le Christ lui-même. Alors il y a un deuxième point que je veux aborder, c'est donc numéro 2, je regarde la montre, c'est la notion de sacrifice. La notion de sacrifice. Dans sacrement, il y a la même étymologie que sacrifice, ce qui n'est pas le cas du mot mysterion en grec, qui n'a étymologiquement aucun rapport avec la notion de sacrifice. Donc ici, le mot latin nous est plus utile. De même que dire en roumain, taine, ça n'a pas de rapport particulier avec la notion de sacrifice, c'est lié à la notion de mystère, c'est un mot slave. Mais donc le mot sacrement résonne comme sacrifice. Et effectivement, la vie sacramentelle, particulièrement la divine liturgie, c'est une vie qui se rapporte au mystère du sacrifice. Alors, je dois expliquer un petit peu certains termes. Donc j'allais dire une chose à la fois. D'une part, il faut savoir que le mot sacrifice est un mot qui est très abîmé dans le langage français, en tout cas. L'idée de sacrifier, se sacrifier, sacrifice, c'est un mot que presque personne ne veut employer ici en Europe occidentale et en France, parce que ça a une connotation très 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 négative, et en particulier dans la société de consommation, où chacun cherche à satisfaire ses propres besoins, son propre plaisir, de façon plus ou moins égoïste, l'idée de se sacrifier pour qui que ce soit, pour Dieu ou pour autrui, est évidemment une idée difficile à accepter. L'idée même de sacrifice va à l'encontre de tout ce qui est égoïste dans la nature humaine déchue et dans le péché. L'idée de sacrifice est à l'opposé même de la réalité du péché. C'est vrai qu'il y a une notion négative, même dans le langage français, je ne sais pas comment c'est dans d'autres langues, mais en français, c'est vrai que sacrifier, se sacrifier, ça veut dire généralement détruire quelque chose. Par exemple, je vais sacrifier une journée pour aller, à la poste, faire mon courrier qui attend depuis longtemps. Bon, c'est-à-dire que je vais perdre une journée. Donc c'est un sens très 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 négatif. Or, le mot en français et le concept dans les différentes langues, il a deux dimensions. Il a effectivement une connotation, on va dire, négative, c'est-à-dire je détruis quelque chose, je nie quelque chose, mais il a une connotation affirmative qui est l'idée de consécration. Sacrifier quelque chose ou quelqu'un, c'est également le consacrer, c'est le donner, c'est l'offrir. Donc effectivement, pour le donner, je m'en dessaisis. Par exemple, je sacrifie une journée pour aller faire des courses indispensables. C'est-à-dire que je vais consacrer aussi cette journée. Je ne vais pas seulement perdre cette journée à aller à la poste ou à l'administration, à la préfecture ou aux impôts, je ne sais pas quoi. Je ne vais pas seulement perdre ma journée, mais je vais consacrer cette journée. Cette journée, elle va être pour ça. Elle va être utile. Elle est nécessaire. Et heureusement que je l'ai fait, parce que après tout ce que j'avais à faire pendant cette journée, c'était des actions indispensables, surtout pour aller aux impôts, aux autres, vous pensez bien que c'est totalement nécessaire. Bon. Donc dans l'idée de sacrifice, il y a une double connotation, il y a une connotation négative, si on veut, et une connotation extrêmement positive, qui est l'idée de don, d'oblation, d'offrande, et si on passe au registre sacramentel, au registre de la foi, l'idée de sacrifice, c'est l'idée qu'on va prendre quelque chose qui est à nous ou qui est à notre disposition, on va s'en dessaisir, on va s'en défaire, on va s'en départir pour le donner à quelqu'un. Et ce qu'on va donner, c'est le meilleur de ce qu'on a. On n'a pas, vous savez que Dieu dans la Bible, à un moment, il reproche à son peuple de lui offrir toujours des bêtes malades, qui ont un œil crevé, ou une corne en moins, ou trois pattes, etc. Et ça, c'est vraiment un péché très très grave. En réalité, un vrai comportement de foi consiste à offrir à Dieu ce que nous avons de meilleur. Le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de ce qui nous appartient. Si nous offrons des animaux, ça se fait plus, parce qu'on pratique le sacrifice non sanglant maintenant, mais enfin, dans le contexte biblique, on offrait à Dieu la plus belle bête du troupeau, la tête du troupeau, l'agneau le plus blanc, le plus joli, le plus, et à plus forte raison, par exemple, quand notre père Abraham a accepté de sacrifier son fils à Dieu, son fils Isaac, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il n'en avait qu'un. C'était un fils. Et en plus, c'était Dieu qui le lui avait donné, et Dieu lui suggérait de le lui offrir, c'est-à-dire de le lui sacrifier. Et le sacrifier, dans ce cas-là, ça voulait dire mettre son fils à mort, quand même, c'est-à-dire le s'en dessaisir et le faire mourir, disons. Et par cela, donc, le consacrer à Dieu de manière définitive. C'est-à-dire que ce fils, une fois immolé, n'appartiendrait à plus personne du tout, que à Dieu seul. Ça, c'est l'idée vraiment de sacrifier dans son sens fort. Et se sacrifier, même pour quelqu'un qu'on aime en particulier, et éventuellement, si on est chrétien, si on est le Christien même, se sacrifier pour ses ennemis, c'est-à-dire donner sa vie pour autrui, donner sa vie pour son prochain, et donner sa vie pour ses ennemis, pour ceux, etc. C'est évidemment ce que l'être humain peut faire de plus élevé, parce qu'il donne le meilleur de lui-même, donner sa vie. Qu'est-ce que tu as de mieux que ta propre vie? Et si Dieu donne ta vie pour autrui, pour Dieu, c'est-à-dire que tu offres le meilleur de toi-même. Et c'est vrai que tu t'en départis, tu t'en dessaisis, puisque tu vas mourir, tu n'auras plus cette vie que tu vas la donner. Et dans le sacrifice, il y a un choix. Quelqu'un me disait aujourd'hui, ah, moi je ne sais pas quoi faire comme profession, alors je ne sais pas, entre être pompier, prêtre, vétérinaire, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Mais bon, il faut faire un choix. Donc si tu choisis d'être vétérinaire plutôt que d'être pompier, je parle pas d'être prêtre, si je suis vétérinaire, je serai pas pompier. Ah, c'est affreux ça. Donc je sacrifie quelque chose pour faire quelque chose d'autre. Il y a une idée dans l'idée de sacrifice, bon pardon de prendre des exemples idiots, mais dans l'idée de sacrifice, il y a l'idée de choix, il y a un exercice de la liberté. Il y a un exercice de la volonté, il y a quelque chose qui est extraordinairement noble, parce que effectivement, je fais le choix, par exemple, d'aller à l'église le dimanche matin, au lieu d'y aller, le dimanche matin, il y a des choses extraordinaires, il y a des matchs de foot, on peut faire du jogging, on peut prendre un petit déjeuner dans son lit devant la télé, il y a des choses qu'on pourrait faire le dimanche matin. Or, on sacrifie justement ces activités qui sont en elles-mêmes tout à fait innocentes, absolument pas blâmable, les bonnes activités, on les sacrifie pour une activité incomparablement supérieure, tout de même, qui consiste à aller à l'église et prier Dieu. Donc, vous voyez, donc la notion de sacrifice, alors, quand on étudie l'histoire des religions, en lisant Mircea Eliade ou Gérard Vandenlund et tous les ouvrages que j'ai cités l'autre jour, parce que je partais beaucoup du contexte de l'histoire des religions, on s'aperçoit que la notion de sacrifice est la notion centrale du phénomène religieux dans toutes les civilisations. Et en particulier dans la tradition de l'Inde, dans la tradition védique, le sacrifice, c'est la notion de référence, la notion de référence. Tout est sacrifice, la vie est sacrifice, l'existence elle-même est sacrifice. Et alors, mais cette existence sacrificielle, cette conception sacrificielle de l'existence, consiste à offrir, à s'offrir, à immoler quelque chose continuellement à la divinité, ça devient l'essence même de l'existence humaine consciente. Ça prend toutes sortes de formes, parce que toute la vie religieuse en Inde en particulier est extrêmement riche, il y a des rites de toutes sortes, mais qui passent par des rites très très simples, l'offrande du lait, l'offrande du feu, l'offrande de la flamme. Bon, tout ceci, c'est l'universalité du sacrifice. La vie religieuse, la vie Oui, la vie religieuse, le phénomène religieux, je dirais, universel, est un phénomène qui ne peut pas se formuler autrement qu'un phénomène sacrificiel. Donc il faut accepter ce mot sacrifice, même si nous ne l'aimons pas au début. C'est un mot très 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 important. C'est-à-dire que c'est ça qui donne, si vous voulez, le fond de la notion de culte. Hein, même par exemple, je vous avais parlé du terme de F. Sevilla, ou pietas en latin, cette adoration de la divinité, c'est profondément sacrificiel, parce que adorer, quand je me livre à l'adoration de Dieu, je ne fais que cela. Et je sacrifie tout pour n'être que dans l'adoration, que dans la louange, que dans la révérence, que dans l'hommage que je rends à la présence de la divinité. Il y a quelque chose de foncièrement sacrificiel dans le moindre acte de cette pietas dont parlaient les latins, ou bien dans l'autre terme grec qui est employé, le terme de latria, hein, qui était le culte rendu à Dieu dans la pratique, bien c'est un culte qui a une dimension sacrificielle parce que je consacre tout de mon attention, de ma conscience, de mon cœur, de ma volonté, de la divinité dans ces actes-là. Ce qui veut dire que, dans le fond, il y a dans la dimension sacrificielle quelque chose d'intérieur. C'est pour ça que Dieu dit dans le psaume 50, c'est très intéressant, le psaume 50 est très très intéressant parce qu'il y a une opposition entre les holocaustes qui ne sont pas agréables à Dieu. Si tu avais voulu des holocaustes, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Donc, finalement, ça plaît. Et qu'est-ce que l'autre thème, c'est le sacrifice agréable à Dieu, c'est un cœur brisé, un cœur contrit et humilié. Dieu ne le méprise pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose dans le concept de sacrifice, dans la réalité sacrificielle, c'est-à-dire dans la réalité religieuse elle-même, il y a quelque chose qui est profondément intérieur, qui est lié au cœur de l'être humain. Au fond, un sacrifice ne peut jamais être vraiment satisfaisant, ni pour l'homme, ni pour Dieu, s'il n'est pas offert de tout son cœur. Autrement, il dit bien une action rituelle extérieure, éventuellement hypocrite, magique, avec toutes ces décadences de la vie religieuse que nous avons déjà signalées dans les cours précédents. Mais l'essentiel du sacrifice, c'est qu'il soit offert par le cœur. C'est le cœur lui-même qui offre, et le cœur lui-même qui s'offre en fait lui-même. Donc forcément, dans cette activité sacrificielle, il y a l'idée d'offrande de soi. Offrande de soi, l'offrande de soi-même. Maintenant, dans les sacrifices, il y a surtout dans le sens biblique, il y a une autre notion qui est très importante, qui est la notion d'échange ou d'alliance. Et ça, c'est très important parce que ça fait partie du mystère liturgique chrétien fondamental. Donc, il y a l'idée d'une réciprocité. Ça se voit beaucoup dans le sacrifice d'Abraham. Effectivement, il y a un contrat, il y a une alliance. Et ça se voit aussi dans les autres formes de sacrifice qu'on peut trouver dans la Bible. Chaque fois, le sacrifice est là pour ratifier une entente, une complicité, une unité de volonté entre la divinité et l'être humain. Alors c'est vrai que dans les formes plus universelles de la religion, plus anciennes, quelquefois effectivement on a une conception un petit peu mercantile, disons, du sacrifice, c'est-à-dire je fais ça pour toi Dieu, mais en échange tu vas faire telle chose pour moi. Mais bon, on ne peut pas exclure complètement cette dimension mercantile dès qu'on parle d'alliance. Parce que pourquoi ? Parce que dans une alliance, il y a une réciprocité. Mais si vous voulez, dans la profondeur de l'alliance, la partie la plus pure du mystère de l'alliance, cette réciprocité, elle doit être gratuite, elle doit être libre, elle doit être généreuse, elle doit être désintéressée. Elle doit être désintéressée. Bon, on pourrait dire que le sacrifice, dans le sens de sacrifice d'alliance, à son plus haut niveau, il est une réciprocité gratuite. Et ça, c'est du point de vue de Dieu, nous comprenons que c'est extrêmement important, que Dieu ne veut pas que nous lui offrions un sacrifice par obligation. Dieu attend de nous, il dit dans la psaume aussi, il dit « donne-moi ton cœur », c'est-à-dire « donne-moi la gratuité de toi-même ». Autrement, ce sacrifice ne sera pas tellement intéressant. Ce qui fait le prix du sacrifice, c'est justement sa gratuité. C'est un peu paradoxal, parce que dire que ce qui fait le prix d'une chose, c'est sa gratuité. Ben si, ce qui fait le prix d'une chose, c'est qu'elle est sans prix, qu'elle est inappréciable, hein, qu'elle ne peut pas être évaluée, elle ne peut pas être calculée, vous voyez. C'est ça qui fait son prix. Ce qui est inappréciable a plus de prix que ce qui est appréciable. Ben oui, peut-être ça me fait rêver un petit peu, mais c'est pourtant vrai. C'est pourtant vrai. Quelque chose qui n'a pas de prix, c'est quelque chose qui a un prix extraordinaire, incalculable. Il n'y a rien de plus précieux que ce qui n'a pas de prix. Bon, alors, il y a encore une notion aussi de, qui va avec le sacrifice, et je vais avancer après, c'est, ah oui, c'est très intéressant, c'est l'idée d'augmentation de la réalité par l'action divine. Ça, c'est très très intéressant, ça. C'est-à-dire, ce qui est sacrifié, donc comment dire, abandonné pour être donné, j'abandonne quelque chose qui m'appartenait, ma vie par exemple, je l'abandonne, je renonce, quelque chose, je renonce mais pour l'offrir. Mais ce qui se passe d'encore plus intéressant, c'est qu'il y a une augmentation de cette réalité. L'offrande reçue par Dieu nous revient, c'est le cas justement du sacrifice d'Abraham, c'est-à-dire qu'il est le type même, si vous voulez, de l'action sacrificielle, il nous revient, il nous est rendu par Dieu à ce moment-là, mais augmenté de toute une valeur qu'il n'avait pas. C'est typiquement le cas dans la liturgie eucharistique. Au fond, nous offrons à Dieu ce qui était à nous, parce que Dieu nous l'avait donné, nous le lui offrons, et quand il nous le rend augmenté d'une qualité, d'une réalité que ce don n'avait pas quand il venait de nous. Il nous revient augmenté de toute sa qualité divine, il nous revient augmenté de toute son identification avec Dieu lui-même qui dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Donc l'idée d'augmentation, d'accroissement de la réalité, d'épanouissement ou de transfiguration même de la réalité une fois offerte et agréée par Dieu, évidemment, c'est une idée qui est extrêmement importante. Dans tout sacrifice, il y a l'idée donc d'une transfiguration. Et ceci est lié justement à l'action du Saint-Esprit. C'est l'Esprit-Saint justement qui augmente la réalité. C'est par l'Esprit-Saint que cette réalité trouve sa plénitude. C'est pour ça que dans la prière au Saint-Esprit, on dit « toi qui es partout présent et qui » pas seulement remplit tout, si vous voulez, mais qui accomplit tout. Ta panda pliron. Pliro en grec, c'est pas seulement remplir un contenant par un contenu, si vous voulez, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est l'idée d'achèvement, de plénitude et de perfection. Donc, qui perfectionne tout, qui donne à tout sa plénitude. C'est ça qui se passe dans le sacrifice, véritablement. Le sacrifice trouve une augmentation telle qu'il devient plénier, qu'il n'y a rien au-dessus. Ce qui est, par exemple, le pain et le vin, une fois qu'ils ont été consacrés, sacrifiés, donc, dans le sacrifice non sanglant, ils trouvent une augmentation qui est une totalité, c'est-à-dire qu'ils ne pourront jamais être plus que cela. Il ne peut pas déclencher, qui est indépassable, une plénitude indépassable. Et cette plénitude indépassable ou insurpassable, elle est donnée par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint lui-même, l'Esprit du Père, qui donne cette valeur. Alors, bien sûr, c'est le Père. Mais c'est le Père qui donne le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui est l'agent principal de cette augmentation de la réalité, on peut dire. Et ça se voit beaucoup aussi dans le... C'est assez intéressant, je n'y avais pas pensé auparavant, mais j'y pense maintenant, dans le mystère du baptême du Christ au Jourdain. Quand le Père se reconnaît dans le Fils, il dit « celui-ci est mon Fils bien-aimé, il a toute ma bienveillance », il le consacre, mais il le consacre justement par l'Esprit-Saint qui simultanément descend sur lui. C'est l'Esprit-Saint qui donne au Fils, qui s'offre justement à ce moment-là dans le baptême. Ça, c'est vraiment typique. Le baptême, c'est une noyade quand même, hein. C'est un tombeau, les Pères dans la liturgie, ils disent que c'est un tombeau liquide. Donc il y a une entrée dans la mort, il y a une sortie de ce tombeau liquide, et cette mort est justement un caractère sacrificiel. Et dans ce sacrifice, le Fils est consacré, il se consacre au Père, et le Père, le reconnaissant dans sa bienveillance, il lui donne toute sa valeur, toute sa valeur. C'est ça qu'on traduit quelquefois, il a toute ma bienveillance. C'est-à-dire qu'en fait, je lui donne, je lui reconnais, moi en tant que Père, en tant que Dieu le Père, par le Saint-Esprit, je lui reconnais toute sa valeur. C'est-à-dire qu'il est le Fils bien-aimé. Et ça, c'est un cas typique, si vous voulez, d'augmentation de la réalité. Il s'agit ici de la réalité du Fils, mais pour les yeux des hommes, bien entendu, hein, il n'est pas déifié à ce moment-là, il est reconnu comme Dieu dans toute sa plénitude. Et c'est un moment très très important du mystère de la théophanie et qu'on retrouve à Pâques. Parce qu'à Pâques, c'est pareil, c'est l'entrée dans la mort, donc le sacrifice de soi au sens négatif, si vous voulez, il renonce à sa propre vie, et le surgissement dans la vie, et après ça, l'exaltation à la droite du Père, c'est-à-dire justement l'augmentation totale de cette réalité divino-humaine du Christ qui est placée à la droite du Père. Le couronnement du Christ à la droite du Père, l'exaltation du Christ à la droite du Père, comme on peut l'appeler, et c'est justement cette totalité parfaite. Il ne pourra jamais être plus que ça, il ne pourra jamais être plus glorifié qu'il est à ce moment-là. Je veux dire encore aussi, à propos de ces notions de sacrifice, que c'est assez importante, que... oui, ça va avec un thème que je vais peut-être arriver à reprendre maintenant, qui est l'idée de parfum agréable à Dieu. Il y a dans l'idée de sacrifice l'idée très importante d'être agréable à Dieu, de faire plaisir à Dieu en quelque sorte. Et cette expression-là, d'offrir un sacrifice agréable à Dieu, elle est employée par l'apôtre Paul, et le Père Saint-Élie la reprend beaucoup en citant Saint Cyrille d'Alexandrie. Le sacrifice, la vie sacramentelle chrétienne en général, ça se définit comme ça, comme une offrande agréable à Dieu, mais comme un parfum agréable à Dieu. Là, ça vient du grec. En grec, le mot pour sacrifice, c'est thysia, et le verbe thio, offrir un sacrifice. Or, ces mots-là, thysia, ou thio, pour prononcer comme ça, qui s'écrit T-H-Y-O ou T-H-Y-S-I-A, c'est la même racine que le terme thymiama, qui veut dire le parfum. Donc il y a, c'est pour ça qu'on nous disions beaucoup dans toutes, pratiquement, toutes nos actions sacramentelles, bon, presque toutes, oui, bah, presque toutes, nous utilisons l'encens. Parce que l'encens est justement ce qui signifie, mais d'une manière palpable, de manière corporelle, justement, signifie d'une manière corporelle, l'agrément du parfum par Dieu. C'est-à-dire que le fait que Dieu, de façon anthropomorphique, si vous voulez, Dieu respire ce parfum de notre offrande, il la respire et en la respirant, il la trouve de bonne odeur, il trouve qu'elle a un bon parfum, qu'elle sent bon, que nos offrandes sentent bon. Voyez, et l'idée de parfum est extrêmement importante. L'usage de l'encens dans les rites chrétiens n'est pas, signifie qu'on rend hommage à la présence de la personne, ça c'est évidemment très important, ça se rapporte à ce que je disais tout à l'heure, l'encensement c'est très 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 important, c'est par l'encens que nous rendons hommage à la présence invisible du Christ, par exemple, dans l'Église. C'est vrai que l'encens signifie aussi, on le dit, le symbole de la prière qui s'élève devant Dieu, c'est vrai, mais l'encens c'est principalement un parfum, enfin, je veux dire, dans le meilleur des cas, parce que dans beaucoup d'églises, malheureusement, on utilise des encens absolument épouvantables, qui font que tout le monde se mouche, on ouvre les fenêtres en grand, parce que ça sent pas bon du tout. Mais normalement, l'encens est un parfum que l'on fait brûler devant Dieu, et qui monte devant Dieu, et qui, pour nous, si vous voulez, est le symbole de l'agrément de notre offrande. Et ça, cette image-là, cette métaphore-là, elle est reprise beaucoup, beaucoup, beaucoup par les pères, en général, d'ailleurs, et par Père Saint-Élie lui-même. Je retrouve un texte à propos, justement, du sacrifice. Voilà, ça, c'est un texte de Saint Cyrille d'Alexandrie. Il dit « En tout temps et sans cesse, du début jusqu'à la fin, nous élevons dans le Christ la bonne odeur par toute vertu dans la tente sainte, c'est-à-dire dans l'Église. Car la fumée qui monte depuis l'agneau le matin et le soir est encore une image de celui qui, à cause de nous et pour nous, s'élève vers le Père dans un parfum de bonne odeur, apportant avec lui-même également la vie de ceux qui ont cru en lui, qui ont dans l'espérance le resplendissement de la gloire et la certitude du royaume, et à côté de cela, la joie des enchantements éternels. » Donc, le sacrifice, là, il s'agit du sacrifice eucharistique, si vous voulez, où le Christ s'offre sacrificiellement continuellement. Il s'offre en parfum d'agréable odeur au Père, parce que l'offrande que le Fils fait de lui-même est une offrande dans laquelle le Père se reconnaît, qu'il agrée, mais en même temps, en s'offrant, il offre aussi tous ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire ses membres. Et c'est pour ça qu'il y a dans la divine liturgie, c'est le moment dans la prière avant la grande entrée, et il y a cette parole qui est très très importante, où on dit au Christ, toi qui offres et qui es offert, qui reçois et qui est distribué. Donc c'est le noyau, si vous voulez, de la vie sacramentelle de l'Église, c'est cela. C'est-à-dire que c'est un sacrifice, mais dans lequel le Christ n'est pas seulement sacrifié passivement, ou même consacré passivement, si vous voulez, mais dans lequel son sacrifice est un sacrifice volontaire. C'est qu'il se donne lui-même en oblation sainte. Et ça se voit d'ailleurs dans le Saint-Évangile, où plusieurs fois, ce qu'on va appeler ses ennemis, globalement parlant, ses adversaires, ont voulu par exemple l'arrêter pour le mettre à mort, et chaque fois il leur a échappé. Et il dit aussi, il s'est livré quand il a choisi lui-même de se livrer. Et de même il dit, ma vie, c'est pas vous qui me prenez ma vie, c'est moi qui vous la donne. Il y a le fait que le Christ est l'initiative du sacrifice, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'il s'offre. Il est offert, mais il s'offre, il se donne. Donc c'est ça qui donne aussi toute la valeur au sacrifice du Christ et qui est en fait le fond de toutes les actions sacramentelles. Dans toute action sacramentelle de l'Église, il y a ce mystère-là, le mystère du Dieu lui-même fait homme, qui s'offre lui-même et qui rend ce sacrifice agréable parce que justement il en est l'auteur, il en est la victime et il en est également le prêtre. Important, le Christ est à la fois, si vous voulez, l'épître aux Hébreux de l'apôtre Paul en particulier, qui insiste là-dessus, que le Christ est à la fois celui qui est offert et celui qui offre, c'est-à-dire qu'il est à la fois la victime, mais il est également aussi le pontife, le célébrant de son propre sacrifice. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans toute action sacramentelle de l'Église, le Christ est présent, mais il est présent en tant qu'il est la matière, si je peux dire, du sacrifice, c'est-à-dire qu'il est la victime offerte, quelle qu'elle soit, que ce soit le temps, que ce soit l'espace, que ce soit la matière de l'eau, par exemple, c'est encore le Christ qui s'offre à travers cette matière. Mais en plus, il est celui qui offre, c'est qu'il est celui qui est l'auteur de l'action sacrificielle. Il est le sacrificateur. Il est le sacrifié, mais il est le sacrificateur. Ça, c'est extrêmement important. Un dernier point que je voulais voir, je sais. Alors, effectivement, pour ça, j'avais préparé les textes de Saint Nicolas Cabasilas. Je sais pas, ça illustre un peu, ça va me reposer un petit peu. Oui, Saint Nicolas Cabasilas cite justement au début l'idée, il souligne beaucoup cette idée de présence. En particulier, cette phrase du Christ, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde que j'ai cité déjà tout à l'heure. Oui, je lis un peu la suite. Quand il a semé la semence de vie sur terre et apporté le feu et l'épée, il ne part pas aussitôt et ne laisse pas aux hommes le soin de planter la semence, de nourrir, d'allumer le feu ou d'utiliser l'épée. Lui-même reste réellement parmi nous. Il opère en nous la volonté et le faire, selon l'expression du bienheureux Paul. C'est lui qui allume le feu et l'applique. C'est lui qui tient l'épée. Page 52. Page 53. Oui. Et pourtant, le Seigneur n'a pas simplement promis d'être présent avec les saints, mais de demeurer avec eux et bien plus de faire chez eux sa demeure. Et il cite l'apôtre Paul qui dit, celui qui s'unit au Seigneur n'est avec lui qu'un seul esprit, et il n'a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. Page 60, après. Oui, page 60. C'est également la même idée de présence tellement importante. Ben, oui, c'est ça. Alors, il dit une chose qui est importante, c'est que la Cabasilas, il dit que c'est par les sacrements aussi que nous rejoignons cette présence, en fait. Les sacrements ne sont pas seulement des actions par lesquelles le Christ se rend présent, etc., comme j'ai essayé de le dire, mais ce sont des actions par lesquelles nous, d'une certaine façon, nous nous rendons présents à cette présence. Nous nous greffons à cette présence. C'est surtout vrai du baptême. Il dit ça, par exemple, il dit « Le baptême nous confère l'être et, en somme, l'existence selon le Christ. » L'onction avec le crème perfectionne celui qui est rené en lui infusant l'énergie qui convient à une telle vie. Et troisièmement, la divine Eucharistie prolonge et nourrit cette vie et cette santé. Donc vous voyez, c'est important, les sacrements, quels qu'ils soient, sont des façons que nous avons, nous, de nous connecter, en quelque sorte, sur cette présence du Christ, hein, qui est réelle, mais pourrait rester objective. Elle devient justement subjective, si vous voulez, parce que nous nous greffons nous-mêmes, dans la mesure où nous entrons, si vous voulez, dans la présence du Christ, nous communions à la présence du Christ, je pense que c'est si simple de dire ça, nous communions à la présence du Christ par la vie sacramentelle, quelle qu'elle soit, au fond. Par exemple, le sacrement du mariage, nous communions à la présence du Christ à Cana de Galilée. C'est dit dans les prières du mariage, je ne vous ai pas apporté, mais vous pouvez les lire. On dit, mais justement, aujourd'hui, monsieur un tel et madame une telle, eh bien, vous communiez à la présence du Christ à Cana de Galilée. Le aujourd'hui, là, c'est assez important, ça, si vous voulez, c'est que les actions sacramentales ne sont pas des mémoires que nous accomplissons à l'égard d'actions passées, chronologiquement passées, mais ce sont des entrées dans l'actualité même de l'action divine. Aujourd'hui, le Christ célèbre l'Eucharistie. Aujourd'hui, il est présent à Cana de Galilée. Aujourd'hui, il guérit les malades. Aujourd'hui, il sanctifie l'eau du Jourdain. Aujourd'hui, là, vous avez tous, je pense, j'espère pour vous, suivi l'office de bénédiction de l'eau à la théophanie. Or, le mot de la grande prière écrite par Saint Sophron de Jérusalem, un des mots qui revient le plus, c'est le mot aujourd'hui. Astes, simeron, aujourd'hui. C'est extraordinaire, ça veut dire qu'effectivement, par l'action sacramentelle, nous entrons dans le présent de l'action divine, le présent de la présence, si vous voulez, mais pas seulement dans la présence, mais dans ce temps absolu, immémorial, définitif de l'action divine. Alors oui, je voulais apporter encore un dernier point, c'est le troisième point, c'est le fait que la forme rituelle des sacrements est liée à la volonté du Christ. Mais ça, je l'ai déjà dit un petit peu, donc c'est peut-être un peu une répétition, je vous en demande pardon, mais dans les 10 minutes qui me restent, je voudrais quand même revenir là-dessus. J'avais dit la dernière fois, je crois, ou une des fois précédentes, que ce qu'on appelle un rite, c'est une action qui réitère une action divine. Que c'est une étymologie probablement un peu fantaisiste de ma part, mais qui est quand même intéressante, le rapport entre rite et l'idée de réitération. Parce qu'en latin, ça tient la route. Réitérare, en latin, ça ressemble beaucoup à ritus. Donc, on peut dire ça que le rite, c'est une action qui, pas seulement qui répète de l'extérieur en imitant une action divine, mais qui la refait, qui la réactualise, qui rend présent une action que la divinité ou les dieux, dans la mythologie de l'histoire des religions, une action que les dieux ont faite. Par exemple, je vais donner cet exemple, construire une maison, eh bien, c'est réitérer une cosmogonie. Ça, c'est très net, vous direz Mircea Eliade si vous ne l'avez pas lu, c'est très intéressant. Alors, toute construction d'une maison, d'une hutte, dans un village africain, ou d'Amazonie, ou de Mongolie orientale, c'est toujours la réitération de la création du monde. C'est un rite cosmogonique. Et donc la maison, ça se fait pas n'importe comment, etc. Bon, donc ça, si vous voulez, c'est ça le principe du rite. Il réitère une action du monde céleste, des dieux, ou de dieux avec un grand D. Ce ne sont pas des actions humaines, ce ne sont pas des actions arbitraires, ce sont des actions dans lesquelles le ciel et la terre sont unis. Je l'ai dit aussi, j'y reviens, ce sont des actions dans lesquelles les dieux ou les esprits, et particulièrement la divinité personnelle pour le peuple juif et pour nous, sont présents et actifs. Et c'est pour ça que le rite est lié à un sentiment de crainte. Crainte de Dieu, crainte de la divinité, ce qu'on appelle le mana, l'histoire des religions, cette espèce de puissance divine, impersonnelle dans le cas du mana d'ailleurs, et personnelle dans le cas de la conscience biblique, mais c'est pas qu'on a peur si vous voulez, mais on est saisi par une crainte, par une... ça pourrait presque une terreur sacrée si on était vraiment conscient, vous voyez. Regardez, on vient communier souvent. Soit on communie très peu, une fois par an, ce qui est très très peu, soit on communie trop souvent, presque pas n'importe comment, si vous voulez, mais sans crainte, sans tremblement. Justement, Saint-Simon, nouveau théologien, pour faire plaisir toujours à notre ami Sylvio, Saint-Simon, nouveau théologien, il dit une chose extraordinaire à propos de la communion eucharistique, c'est-à-dire la participation sacramentelle, l'expérience sacramentelle de l'Eucharistie. Il dit « Ne communie jamais sans larmes ». C'est-à-dire sans être absolument bouleversé. C'est ça l'expérience sacramentelle. C'est qu'une telle conscience, un tel ressenti de la présence de Dieu, la présence du Christ, un tel ressenti de la puissance des énergies divines, la puissance de la grâce, un tel ressenti que le cœur se brise et que les yeux versent des larmes qui ne sont pas des larmes d'émotion sentimentale, si vous voulez, mais qui sont des larmes d'un hyper ressenti de la présence de Dieu, une hyper-conscience de la présence de Dieu, qui est tout à fait extraordinaire. Mais là est l'expérience sacramentelle véritable. Bon, ça c'est un premier, je voulais rappeler ça. Ensuite, ce qui est important, c'est le rapport avec la volonté du Christ, c'est-à-dire que le Dieu-homme, le Christ, a donné des indications rituelles et sacramentelles précises. De nombreux textes du Nouveau Testament décrivent des rites du peuple d'Israël, dans l'Évangile selon saint Luc, dans l'Épître aux Hébreux surtout. Les Actes des Apôtres nous donnent une indication sur le comportement liturgique des premiers chrétiens, tout le monde sait ça, qu'à l'intérieur même du judaïsme, dans le temple, ils participent aux prières traditionnelles, et dans leur maison, ils pratiquent la fraction du pain. Nous avons des indications plus précises qui montrent que le Dieu-homme a lui-même transmis des comportements rituels et liturgiques. C'est pourquoi la liturgie de l'Église comporte toujours le lien entre la tradition biblique et les actions que le Christ donne en exemple. Alors, ces exemples qu'on a d'une transmission réelle par Dieu, le Christ Dieu qui, étant homme, parle et dit, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « faites ». C'est, là, il y a un mot qui est très important, qui est le mot « faire ». Alors, on a l'exemple du Notre Père, évidemment, quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça c'est typique d'une définition de l'action rituelle ou sacramentelle, c'est-à-dire des actes, des comportements, des événements dans lesquels le ciel et la terre sont unis. Mais ceci, ça veut dire aussi que l'expérience religieuse de l'être humain, c'est une expérience dans laquelle la volonté de Dieu est faite. C'était très vieux ça, par exemple dans la Genèse, on a ce passage, c'est au moment de la construction de l'arche. Dieu dit à Noé, bon, tu vas construire une arche en bois, tu vas la faire comme ça, comme ça, comme ça, et tu vas mettre des bêtes dedans, chaque espèce. Bon, quelle est la suite? La suite c'est au verset, c'est chapitre 7, verset 5, la réponse c'est Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné, tout ce que lui avait ordonné le Seigneur. Donc c'est ça la vie rituelle, sacramentelle, faire tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Dans l'Exode, dans les livres de l'Exode, il y a deux fois cette phrase-là, nous ferons ce que dit le Seigneur, nous ferons ce que dit le Seigneur. Et particulièrement, au chapitre 24, verset 3, il s'agit du sacrifice d'alliance, de l'alliance. Pas le temps de vous le relire, mais Moïse dit au peuple, voilà, Dieu a dit qu'on va faire comme ça. Le peuple dit, nous ferons ce que dit le Seigneur. Et quand le peuple a dit ça, c'est-à-dire qu'il dit, on va faire ce que vous dites, c'est-à-dire on va faire la volonté de Dieu. Donc, Moïse instaure le sacrifice, il immole les animaux tels que Dieu lui a demandé. Donc c'est-à-dire qu'il y a un lien foncier l'action sacramentelle ou l'action sacrée, si vous voulez, l'action religieuse, l'action rituelle, il y en a fondamental avec l'accomplissement de la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Mais c'est pas une obéissance au sens simplement militaire ou moral, c'est pas simplement la soumission à une autorité plus forte que nous, si vous voulez, c'est faire quelque chose dans le domaine de l'être, de l'essence des choses, de la substance des choses, faire une action qui est en fait qui colle à la volonté de Dieu, ça veut dire que Dieu préside aussi à la vie religieuse. Alors nous avons des exemples du Christ très très nombreux, par exemple le lavement des pieds, Jean 13, 15, vraiment très très important ça, il dit, ce que vous voyez faire, faites-le aussi. Il emploie tout le temps ce mot-là, le Christ Dieu emploie ce mot-là, le baptême, bah oui, Matthieu 28, 19, faites ceci, baptisez au nom du Père et du Fils, enseignez. Donc, ce sont des injonctions, et des injonctions divines précises qui sous-tendent les actions sacramentelles que nous pouvons connaître. Par exemple, aussi, l'imposition des mains, la guérison du sourd-muet, c'est ça. Les sacrements ont un fondement, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une action du Christ rapportée par l'Évangile. Et c'est évidemment dans l'Eucharistie que c'est le plus fort. C'est là qu'il y a la parole qui résume tout ce que je dis là, la façon la plus extraordinaire et la plus définitive, quand le Christ dit « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est dit plusieurs fois, c'est Luc 22, 19, Matthieu 22, 26, Marc 14, 22, 1er Épître aux Corinthiens 11, 23, 26. Donc ça, cette parole-là, c'est la parole clé. Ça veut dire qu'une action sacramentelle, c'est une action dans laquelle on est obéissant à Dieu, de célébrer la liturgie. Par exemple, on vient ou on ne vient pas à l'église le dimanche. Je m'arrête après. Mais ça, ça veut dire qu'on n'est pas très conscient quand même. Parce que quand le Christ dit « Faites ceci en mémoire de moi », il nous donne une injonction qui fait de nous des célébrants. Nous sommes des célébrants. Ce qu'il dit là, il ne le dit pas à des non-baptisés, il dit aux baptisés « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc il y a un faire, il y a une action, et c'est précis, c'est ceci, c'est pas autre chose. Ceci, c'est-à-dire ce qu'il nous a montré, ce qu'il a fait le premier, c'est-à-dire que nous allons réitérer, réactualiser ce qu'il a fait, pas seulement en l'imitant, mais en le faisant par lui, et le « en mémoire de moi », c'est pas en mémoire de n'importe qui, c'est quelqu'un de très précis, qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'appelle Dieu, le Verbe, qui est connu, qui a une identité, on n'est pas dans l'anonymat, on est dans des choses précises, et on fait mémoire. Alors ça, c'est évidemment le mot très important, le mot très ambigu. Je disais tout à l'heure que la mémoire, pour nous, ce n'est pas une répétition d'un événement passé. L'Église n'est pas le musée vivant du Christ, de l'Église primitive. C'est pas ça, l'Église n'est pas un musée vivant, mais c'est un moment où faire mémoire, c'est en fait actualiser. C'est comme on dit tout à l'heure, c'est entrer dans le présent de l'action divine. Donc vous voyez, tout ça pour dire que l'action rituelle, si vous voulez, a quand même son importance. Ce n'est pas n'importe quoi, ce sont des actions qui correspondent à une injonction divine précise. Donc elle ne peut pas être relativisée, elle ne peut pas être considérée comme, elle ne peut pas être méprisée, elle ne peut pas être négligée, elle ne peut pas être faite n'importe comment. Mais en même temps, je veux lire quand même ce passage de Père Schlemann. En même temps, derrière tout ça, ce qui est important, c'est l'amour pour Dieu. C'est ce qu'il dit en Marc 12, 33. Ce qui est important dans tous les rites, dans tous les sacrements, quel que soit le sacrement qu'on célèbre, dont on parle, c'est l'amour qu'on a pour Dieu. Et page 20, 21 dans la vie du monde, justement, je vais vous lire ça quand même de Père Schlemann. Il dit, au sens profond du terme, le christianisme est la fin de toute religion. Dans l'histoire évangélique de la Samaritaine, au puits de Jacob, Jésus l'annonce clairement. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète, nos pères ont adoré sur cette montagne, etc. » Jésus lui répond, « Femme, crois-moi, l'heure vient, où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, mais l'heure vient, et nous y sommes, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Elle lui posait une question sur le culte. Dans sa réponse, Jésus change toute la perspective du problème. C'est un fait, nulle part dans le Nouveau Testament, le christianisme ne se présente comme un culte ou une religion. La religion est nécessaire quand il y a un mur qui sépare Dieu de l'homme. Mais le Christ, qui est à la fois Dieu et homme, a renversé le mur qui les séparait. Il a apporté une vie nouvelle, non pas une religion. C'était cette liberté de la première primitive Église à l'égard de la religion, entre guillemets, qui conduisait les païens à accuser les chrétiens d'athéisme. Les chrétiens n'avaient pas d'intérêt pour une topographie sacrée, pas de temple, pas de culte reconnaissable comme tel par des générations nourries des religions à mystère. Il n'y avait pas d'intérêt religieux particulier pour les endroits où Jésus avait vécu. Il n'y avait pas de pèlerinage. La religion ancienne avait ses milliers de temples et de lieux sacrés. Pour les chrétiens, tout cela était passé périmé. plus besoin de temple de pierre, le corps du Christ, l'Église elle-même, le peuple nouveau qui se rassemblait en lui était le seul vrai temple. C'est l'Église elle-même qui était la nouvelle et céleste Jérusalem. Le fait que le Christ vient et est présent, vous voyez, on retrouve cette même idée, avait infiniment plus de signification que les lieux où il avait vécu. Alors, en lui, toute religion prenait fin, parce que c'était lui la réponse à toute religion, à toute fin humaine de Dieu. Parce que c'était en lui que cette vie que l'homme avait perdue, et qui ne trouvait qu'un symbole, un signe, une quête dans la religion, était enfin restituée à l'homme. Donc vous voyez, ce qui transcende la vie sacramentelle, la vie religieuse, la vie rituelle, et la vie liturgique elle-même quand même, hein, ce qui transcende notre célébration liturgique, c'est la présence du Christ. Donc il n'y a pas de liturgie en soi. On vient à l'Église pour rencontrer le Christ et communier à sa vie. Je vous remercie, je vous demande pardon pour l'imprécision de tout ça. Merci beaucoup.